d'une fois encore, car depuis qu'elle me raconte son été prodigieux, c'est la même question qui revient. Je me demande, qu'est-il resté en elle de ce temps, aujourd'hui impensable, où des hommes brûlaient des liasses de billets pour dire leur dédain de l'argent et des démences qu'il engendre? Juste des souvenirs ou davantage que cela? Ses rêves d'alors, se sont-ils dissous? Sont-ils tombés au fond d'elle-même comme ces particules qui se déposent au fond d'un verre? Ou bien un feu follet brûle-t-il encore en son vieux cœur comme il me plaît infiniment de le croire? Ce dont je m'avise en tout cas, c'est que ma mère, depuis quelques années, se moque éperdument du peu d'argent dont elle dispose et le distribue à qui veut. Prodigalité que son médecin met sur le compte de sa maladie, au même titre que ses troubles de la mémoire et que ses écarts de langage, innombrables pour ne pas dire incessants. Mais j'aime à penser que son médecin se méprend et qu'une lueur tremblante pétille encore en elle, les braises encore tièdes de ce mois d'août 36 où l'argent fut brûlé comme on brûle l'ordure. Tandis que Monse s'émerveille de la beauté du monde, José, qui a voulu s'accorder quelques jours de vacances avant de signer sa feuille d'engagement, passe son temps à paresser à la terrasse des cafés en discutant, avec des jeunes gens qui lui ressemblent, de la révolution qui va reconfigurer l'univers. Mais José sent lentement un malaise envahir. Il ne peut s'empêcher d'entendre, derrière les discours tenus, les prêches de la propagande révolutionnaire dont les murs de la ville sont couverts et qui n'ont rien à envier au catéchisme de Don Miguel, le curé de son enfance, un catéchisme simpliste, écolalique, mensongèrement optimiste et qui fait avaler des couleuvres à ses adolescents rêveurs à coups de phrases grandiloquentes. Le rempart des poitrines valeureuses contre la peste fasciste. La marche triomphante des gracieux gladiateurs qui jettent au vent la semence d'une nouvelle génération de travailleurs serviteurs de l'idéal. Tout le grand bluff en figurique. Il réalise que lui aussi, comme les autres, répète à perdre souffle ses clichés de saison et ses déclamations vibrantes qu'on porte désormais à la place de la cravate. Et cela, profondément, le trouble. Mais ce qui le trouble plus encore, ce sentiment qu'il n'ose confier à personne, qu'il ose à peine s'avouer à lui-même, le sentiment que son engagement dans les milices serait un engagement vain. Car jamais José n'a éprouvé un si grand désir de se donner, mais jamais il ne s'est senti aussi inutile et aussi tristement convaincu que son savoir de paysan, sa force de paysan et son courage de paysan ne serviraient à rien dans cette guerre qu'à le mener à une mort certaine. Or, pour l'instant, il veut vivre, bordel, il veut vivre. Il veut encore respirer l'odeur du café le matin. Il veut encore regarder le ciel, les femmes, les fontaines, les oliviers altivos, les ânes gris de son village et leur douceur résignée. Et il ne comprend pas que ces jeunes gens qu'il voit partir au front, torse bombé et cul cambré à l'espagnol, aillent se faire massacrer avec un entrain aussi obstiné. C'est que José a réalisé en quelques jours que ceux qui improvisaient cette guerre en attendant des armes qui n'arrivaient jamais manquaient totalement de savoir-faire, qu'ils étaient dramatiquement ignorants en matière militaire, incapables par exemple de lire une carte d'état-major, incapables d'établir une quelconque stratégie guerrière et incapables en conséquence de mettre leur armée en ordre de bataille. Il les a entendus s'épuiser dans les cafés en sarcasmes antimilitaires, se moquer des cordons, cordelettes, médailles, épaulettes, moustaches et autres brimborions dont se décorent les sous-offres, exécrer tout ce qui, de près ou de loin, leur rappelait l'odeur de pied de la caserne. Et José ne peut s'empêcher de penser que ce dédain amusé des choses militaires, que cette confiance imbécile dans la morale et les bons sentiments, risque fort de conduire au carnage ces milliers de jeunes gens partis en fanfare pour le plus grand bien de la patrie. Il ne peut s'empêcher de penser que leur morale, comme leurs bons sentiments, risque fort d'être reçue à coups de Mauser K-98 et l'idéalisme de leur chef accueilli par la mitraille, laquelle se montre peu réceptive, semble-t-il, aux humanistes homélies. Ces jeunes Don Quichotte qui partent au combat chaussés de pauvres espadrilles et vêtus de pauvres